Alors, vous en avez pas marre un petit peu, des fois, de l'état du monde? Regardez les infos, comme nous y invitait tout à l'heure Kalou. Regardez les actualités. La semaine dernière, de nombreux civils, notamment de nombreux enfants, ont été tués dans les affrontements qui continuent d'avoir lieu dans la ville d'Alep, en Syrie. Vous en avez peut-être entendu parler cette semaine. Pendant ce temps, à 8000 km de là, la Corée du Nord vient de réaliser son 5e essai nucléaire. Il y a un mois, un tremblement de terre en Italie a fait presque 300 morts. Au nord-est du Nigeria, dans la région où sévit le groupe terroriste Boko Haram, la famine, paraît-il, est en train de faire des milliers, voire des dizaines de milliers de victimes ces jours-ci. Pendant ce temps, l'État islamique continue de recruter des djihadistes et de projeter des attaques en France et en Occident, d'ailleurs partout dans le monde. Et puis la première puissance du monde, le pays le plus puissant du monde, aura vraisemblablement à sa tête après le mois de novembre soit une sorcière machiavélique, menteuse et corrompue, soit un clown xénophobe et misogyne, tout va bien. Mais il se trouve que l'injustice, la souffrance et la mort, on les observe aussi tout près de nous. Pas seulement au journal télévisé, n'est-ce pas? Pas plus tard qu'hier, j'ai appris la mort soudaine d'une amie, à nous, à qui nous avions rendu visite il y a quelques mois aux États-Unis. Et face à ce flux constant de mauvaises nouvelles, est-ce que vous vous demandez parfois, mais quand est-ce que ça s'arrêtera? Quand est-ce que ça s'arrêtera? Ce monde sera-t-il un jour délivré de cette maladie, de cette corruption, de cette violence qui semble le gangréner? Ce monde sera-t-il un jour délivré de tout cela? Et bien sûr, si vous êtes chrétien, et surtout si vous avez suivi cette série de messages sur l'évangile selon Matthieu, que nous faisons maintenant depuis un certain temps, eh bien vous devriez savoir que Jésus est venu précisément pour ça. Il est venu délivrer les hommes, et d'ailleurs toute la création, des liens du mal et de la mort. Et cette réalité, dans l'évangile selon Matthieu, est souvent décrite en termes de la venue et de l'établissement de ce qu'il appelle le royaume des cieux. Dans d'autres évangiles, c'est appelé le royaume de Dieu. C'est la même réalité. C'est-à-dire que le lecteur attentif, et j'ai envie de dire le paroissien attentif et fidèle, normalement il sait que Jésus est venu de la part de Dieu faire tout ce qu'il fallait pour vaincre le mal et soumettre le monde à son règne bienveillant. Et ça c'est exactement ce qu'attendait le peuple d'Israël depuis de nombreux siècles, pour ne pas dire des millénaires. C'est ce qui est annoncé d'avance par tous les prophètes de l'Ancien Testament. C'est une bonne nouvelle, non? Jésus est venu donc pour ça. Sauf que... Ben, c'est pour quand? Je veux bien croire, Seigneur, que ton projet, c'est de délivrer le monde et d'établir ton royaume sur toute la terre. Je veux bien croire que Jésus a fait tout ce qu'il fallait pour que ça puisse arriver. Mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand devra-t-on encore souffrir et observer l'injustice et la corruption et la violence et la guerre et la persécution et la mort tout autour de nous? Jusqu'à quand? Si seulement Dieu nous donnait une petite indication. Hein, comme par exemple, allez, il reste encore à peu près 3 semaines et demie avant ta délivrance. Bah, ça nous aiderait à garder courage, n'est-ce pas? Bah, il se trouve que dans le texte qu'on est sur le point de lire et d'étudier, bah, les disciples de Jésus posent à Jésus une question qui ressemble beaucoup à ça. Ils aimeraient en fait que Jésus leur dise quelque chose qui les encourage à patienter en attendant l'établissement du règne bienveillant de Dieu sur la terre. Et Jésus va répondre, et il va répondre à cette requête des disciples en leur faisant un long discours qui va couvrir 2 chapitres, les chapitres 24 et 25 de l'évangile. C'est d'ailleurs le dernier des grands discours de Jésus dans cet évangile selon Matthieu. Et ce discours, on va l'aborder non pas en une fois aujourd'hui, mais en 3 fois. La première partie ce soir, les 2 suivantes dans les semaines qui viennent. Et vous allez voir que ce passage nous donne des éléments, des indications précises en fait, destinées à nous encourager, comme c'était destiné à encourager les disciples qui ont posé la question à Jésus. Et cela en nous faisant comprendre ce message, tiens bon, car Jésus règne et il est en train d'accomplir ce qu'il a promis. On va lire ce texte, il s'agit de l'évangile selon Matthieu, chapitre 24. Et on va lire les versets 1 à 35 aujourd'hui. Nous lisons la parole de Dieu. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, « Voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers, et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous, quand cela arrivera? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi qui suis le Christ !» Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et celui qui sera dans les champs ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire si possible même les élus. Je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. « Voici, il est dans les chambres », ne le croyez pas. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je voudrais faire une parenthèse ici. Le Fils de l'homme n'apparaît pas dans le texte. Hein. C'est « sachez » dans le texte original. « Sachez qu'il est proche à la porte. » En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Avant de regarder tout ça dans le détail, je vous invite à la prière. Merci beaucoup, Seigneur, pour ta parole, qui est suffisamment claire pour nous enseigner tout ce que nous avons besoin de savoir, pour notre salut, pour te connaître, pour être pardonné de nos péchés, purifié, destiné à vivre éternellement avec toi. Nous confessons que dans d'autres passages, ta parole est moins claire parce que c'est pas qu'elle a une faiblesse en elle-même, c'est parce que nous sommes faibles. Notre intelligence est limitée. Et nous avons tellement besoin de ton aide, Seigneur, que par ton esprit, tu puisses éclairer notre intelligence et nous permettre d'apprendre tout ce que tu veux nous dire, d'apprendre tout ce que tu veux nous enseigner, non seulement l'apprendre, mais le croire et le mettre en pratique. Fais cela maintenant par la puissance de ton esprit, au moyen de la prédication de ta parole et au nom de Jésus. Amen. Alors avant de regarder plus en détail ce que Jésus dit dans ce passage, il est important de prendre un moment pour regarder et de comprendre la question que les disciples posent à Jésus. Les disciples, ils viennent juste d'entendre Jésus leur dire que le temple de Jérusalem va être détruit, au verset 2. Et les disciples, dans ce texte, ils ne semblent pas être très surpris par cette annonce de Jésus. Et pour cause, hein, ce passage vient juste après plusieurs chapitres où Jésus a longuement dénoncé l'infidélité des responsables religieux juifs de son époque. Et dans ces passages, dans ces chapitres, il a à plusieurs reprises, Jésus, annoncé un jugement à venir contre l'incrédulité, l'infidélité des Israélites qui rejettent leur propre Messie. En fait, à la fin du chapitre précédent, vous vous en souvenez peut-être si vous étiez là, il y a deux semaines, Jésus prononce même cette sentence, en quelque sorte, à l'encontre du temple, à l'encontre du temple des Juifs. Il dit au verset 38 du chapitre précédent, « Voici, votre maison vous est laissée déserte. » La maison des Juifs, c'est le temple. C'est le temple de Jérusalem. Et donc, les disciples, ils ne demandent pas à Jésus pourquoi le temple sera détruit. Ils ont bien compris pourquoi. Ils demandent plutôt quand. Quand est-ce que ça arrivera? Et ce qu'il faut remarquer, c'est que les disciples, dans ce passage, associent la destruction du temple. Ils associent la destruction du temple à deux autres notions qu'ils appellent, d'une part, l'avènement de Jésus, et d'autre part, la fin du monde. Quand arrivera? Quand est-ce que ça arrivera? C'est-à-dire la destruction du temple et l'avènement, ton avènement Jésus, et la fin du monde. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les disciples ne posent pas ici trois questions distinctes à Jésus, auxquelles Jésus répondrait distinctement, en séparant ces différentes choses. Les disciples posent une seule question qu'on pourrait paraphraser de la manière suivante. Seigneur, dis-nous quand et comment on pourra être encouragé en sachant que le temps de ton règne sera venu. Seigneur, dis-nous quand et comment on pourra être, nous tes disciples, encouragés en sachant que le temps de ton règne sera venu. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Alors, pour les disciples, la destruction du temple signifie que le temps du temple sera révolu. Pourquoi? Parce que Jésus aura établi une fois pour toutes ce que le temple établissait de manière imparfaite autrefois. C'est-à-dire une relation entre les hommes et Dieu. Le temple de Dieu était fourni, en quelque sorte, aux Juifs pour établir, mais de manière imparfaite, la relation entre le peuple et Dieu. Mais parce que Jésus, en tant que Messie, va venir accomplir cela d'une manière parfaite et excellente, une fois pour toutes, le temple et son utilité seront révolus, par conséquent, détruits. Parce que le Messie aura accompli sa mission, et donc le temple n'aura plus lieu d'être. Et justement, l'avènement de Jésus, ça désigne l'entrée de Jésus dans son règne après avoir accompli sa mission en tant que Messie. Et puisque la mission du Messie consiste notamment à réconcilier le monde avec Dieu, eh bien, une fois que cela sera fait, une fois que le Messie aura accompli sa mission, il aura réconcilié le monde avec Dieu, eh bien, les disciples pourront dire que l'histoire du monde aura atteint son but depuis le jour où le monde a été séparé de Dieu. Maintenant, le Messie est passé par là, il a accompli sa mission, il a réconcilié le monde avec Dieu. Donc, l'histoire a atteint son but, le projet de Dieu pour racheter le monde sera accompli, et donc, la fin du monde sera venue. Vous voyez que la destruction du temple, l'avènement de Jésus en tant que Messie et la fin du monde sont des choses qui, pour les disciples, font référence à une seule et même réalité, à savoir l'établissement du règne bienveillant de Jésus, le Messie. Mais attention, cette réalité de l'établissement du règne de Jésus ne se résume pas à un événement historique précis, comme si en un seul jour, à une date donnée, le temple devait être détruit, Jésus devait entrer dans son règne et l'histoire du monde devait s'arrêter, en un coup, à une date précise de l'histoire. C'est pas ça que ça veut dire. Certes, dans la question des disciples, il y a un événement historique précis. La destruction du temple, c'est un événement historique précis, vous comprenez. D'ailleurs, on peut la dater, cette destruction du temple. On sait qu'il a été détruit en l'an 70. C'est un événement historique précis. Mais dans la question des disciples, il n'y a pas que ça. Il y a aussi une réalité historique qui ne se limite pas à une seule date dans l'histoire, à savoir le règne du Messie. Et j'irais même jusqu'à dire la fin du monde, dans la question des disciples, ne désigne pas un moment précis, ponctuel, une date précise. Pour comprendre ça, imaginez par exemple que je vous dise ce soir que je conclurai ma prédication après ma quatrième partie. Et imaginez que vous me demandiez en retour, Alex, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ta conclusion et de la fin de ta prédication. Et je pourrais vous répondre, le signe de ma conclusion et de la fin de ma prédication, c'est quand je dirai « Et maintenant pour conclure ». Mais en vous répondant ça, je n'implique pas qu'au moment où j'aurai dit « Et maintenant pour conclure », la prédication prendra fin instantanément. Ce que ça veut dire, c'est que ce sera le signe de la fin, n'est-ce pas? Le signe que le temps de la conclusion est venu. Il y a donc à la fois une réalité, ou j'ai envie de dire un événement historique précis, le moment où je vais dire et maintenant la conclusion, pour conclure. Mais il y a aussi une réalité qui ne se limite pas à seulement un événement précis. Et en même temps, ces choses sont liées. N'est-ce pas? J'espère que vous suivez jusqu'ici. Hein. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la question des disciples n'implique pas non plus que la destruction du temple, l'avènement de Jésus et la fin du monde sont des choses qui désignent ensemble un seul événement précis dans l'histoire, un moment précis, un événement ponctuel. Ce que les disciples veulent savoir au fond, c'est quand et comment ils pourront être encouragés en sachant que le temps du règne de Jésus sera venu. Et Jésus va justement répondre à cette question pour que ses disciples, et l'intention, j'espère que vous allez voir ça, l'intention de Jésus, c'est que ses disciples, le moment venu, soient incités à persévérer dans leur vocation, c'est-à-dire à être encouragés, un peu comme quand moi, tout à l'heure, je vous dirais, et maintenant, pour conclure, à ce moment-là, vous serez vous aussi incités à persévérer dans l'écoute de ma prédication, sachant que le temps de la conclusion est venu et que votre délivrance est proche. Alors justement, regardons maintenant la réponse de Jésus. La première chose que Jésus nous fait comprendre ici, versets 4 à 14, c'est que la venue de son règne n'entraîne pas immédiatement notre délivrance. Parce que des choses doivent encore se passer avant la fin de la conclusion de l'histoire. C'est intéressant de remarquer que les disciples demandent à Jésus un encouragement. Et la première chose que Jésus leur donne en réponse, c'est un avertissement. C'est vrai que les disciples pouvaient penser qu'une fois la mission de Jésus accomplie, elle n'était pas encore accomplie à ce moment-là, quand ils posent la question à Jésus, Jésus n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité, il n'a pas encore été glorifié. Et donc, ils pouvaient penser qu'une fois la mission de Jésus accomplie, le monde serait alors très rapidement réparé et rétabli, et que ce serait assez rapidement le paradis sur terre. Ça y est, le Messie a accompli sa mission. Et donc, toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui annoncent ce paradis au profit des croyants et à la gloire de Dieu, sera réalisé sur la terre. Mais Jésus dit ici, en réponse à ses disciples, il dit qu'une fois sa mission accomplie, en fait, il va y avoir une période de l'histoire qui va leur paraître difficile et qui va nous paraître difficile. Une période où il y aura des faux messies, des guerres, des famines, des tremblements de terre, des tourments, de la persécution, de la division, de l'hérésie et même ce qu'on appelle de l'apostasie, c'est-à-dire des gens qui vont se dire chrétiens mais qui vont finir en fin de compte par se détourner de la foi. Mais pendant cette période, il y aura aussi quelque chose qui sera en train de s'accomplir, dit Jésus. C'est que la bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire cette bonne nouvelle qui concerne la venue et l'œuvre de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle sera annoncée dans le monde entier auprès de toutes les nations. Le terme « nation » dans l'évangile selon Matthieu, c'est un terme qui désigne les peuples non-juifs, c'est-à-dire donc les juifs qui sont les principaux concernés par l'évangile, mais non seulement eux, mais toutes les autres nations aussi pourront entendre et recevoir cette bonne nouvelle qui concerne la venue et l'œuvre de Jésus. Donc Jésus commence ici par cette précision, parce qu'il sait que les disciples seront tentés le moment venu, et lorsque les difficultés surviendront, ils seront tentés de douter que Jésus règne vraiment, au point même peut-être de se détourner de lui, en voyant comment les choses se passent, en se disant « mais c'était pas vrai cette histoire de Messie, c'était pas Jésus ». Ils seront tentés de suivre quelqu'un d'autre qui va dire qu'il est le Messie, vous voyez, non seulement les disciples, mais les premiers chrétiens à qui s'adresse en particulier ce texte. Alors Jésus, il compare cette période, verset 8, à un accouchement. Il dit au verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs, c'est-à-dire les douleurs de l'accouchement. Et je trouve que cette illustration est merveilleuse. Lorsque un accouchement se déclenche, nous on sait un petit peu comment ça se passe, on a un petit peu d'expérience, et bien lorsque un accouchement se déclenche, on a, n'est-ce pas, des sentiments assez ambivalents. C'est à la fois une excellente nouvelle, parce qu'on sait que le bébé va naître, heureux événement, et en même temps on sait que ce n'est que le commencement des douleurs. Les contractions commencent à 4 ou 5 minutes d'écart, et elles ne sont pas trop fortes au début, mais elles grandissent ensuite en intensité et en fréquence. Tous ceux qui ont eu des enfants savent de quoi je parle. Et à la fois, c'est de plus en plus dur au fur et à mesure de ces douleurs. On en a de plus en plus marre, en quelque sorte, de ces douleurs, et en même temps, on se réjouit de plus en plus, parce que ça veut dire que la naissance est de plus en plus imminente. Et la conclusion, quand ça commence, quand l'accouchement commence, on sait que la conclusion de la grossesse est venue, le signe de l'accouchement est là, mais dans un sens, ce n'est que le début d'une période difficile. Et je ne parle pas d'élever des enfants, je parle juste de la période jusqu'à l'accouchement proprement dit. Et voilà comment Jésus décrit ici la conclusion de l'histoire du monde, c'est le début des douleurs de l'enfantement. douleur de l'accouchement. Et mes amis, nous sommes, aujourd'hui, nous sommes dans cette période. Nous sommes dans cette période dont parle Jésus. La Bible explique que Jésus est venu sur la terre pour, comme je le disais tout à l'heure, délivrer les hommes et toute la création des effets du péché, c'est-à-dire de la souffrance et de la mort. Et pour ça, Jésus a souffert lui-même sur la croix où il s'est substitué aux hommes en prenant sur lui le poids des péchés de tous les croyants de toute l'histoire. Et il est mort sur cette croix, engloutissant nos péchés avec lui dans sa mort pour nous en délivrer. Il est ressuscité le troisième jour en laissant nos péchés dans la tombe. Il est ressuscité glorieux, triomphant, comme preuve de sa victoire sur le mal et sur la mort. De sorte que tous ceux qui font confiance à Jésus entrent au bénéfice de cette victoire, d'autant plus que Jésus non seulement est ressuscité, mais ensuite il est monté au ciel. Et la Bible dit que Jésus s'est assis sur le trône de l'univers, tout entier à la droite de Dieu le Père. Jésus a donc accompli sa mission en tant que Messie. Il a établi son règne, c'est fait. Il a établi son règne, il a réconcilié la création avec son Créateur, et maintenant il a envoyé ses disciples, et il nous envoie dans le monde pour annoncer partout cette bonne nouvelle, pour servir de témoignage à toutes les nations, dit-il. Le temple n'a plus lieu d'être, en effet, je le disais tout à l'heure, il a été détruit en l'an 70. La conclusion de l'histoire du monde est arrivée. La conclusion de l'histoire du monde est arrivée. Nous y sommes, nous vivons la conclusion de l'histoire du monde. Mais ce que dit Jésus ici, c'est « ce n'est pas encore tout à fait la fin ». Ce n'est pas encore tout à fait la fin. Nous sommes dans les douleurs de l'accouchement, nous vivons dans cette période ambivalente où nous savons que Jésus règne, mais où en même temps, nous n'avons pas encore été définitivement délivrés des liens et des effets du péché. Et donc, comme le dit Jésus au verset 6, ne nous alarmons pas. Ne perdons pas courage, ne perdons pas patience, ne nous laissons pas séduire, ne laissons pas refroidir notre amour. Jusqu'à la fin, dit Jésus, la fin de la conclusion, dit Jésus, la souffrance, l'injustice, la persécution seront des réalités ordinaires dans notre monde. Jésus semble même indiquer au verset 12 que l'iniquité va progresser. Mais ce qui va progresser en même temps, c'est la proclamation dans le monde entier de l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire de cette invitation adressée aux hommes, à tous les hommes, d'entrer gratuitement dans son royaume par la foi et d'être réconciliés avec Dieu pour l'éternité. Nous vivons donc, pour reprendre une autre expression du Nouveau Testament, nous vivons aujourd'hui dans ce que la Bible appelle les derniers temps, la conclusion de l'histoire. Mais Jésus nous avertit ici que la venue de son règne, ce règne qui est venu lorsque Jésus est ressuscité en vainqueur et qu'il est monté au ciel et qu'il s'est assis sur le trône de l'univers, la venue de son règne n'entraîne pas immédiatement notre délivrance. Pourquoi ? Parce que des choses doivent encore se passer avant la fin de la conclusion de l'histoire. Mais qu'est-ce que dit Jésus ensuite, au verset 15 et suivant ? Il veut nous faire comprendre ensuite qu'en attendant la fin, nous avons des raisons de savoir pour sûr que Jésus règne. À partir du verset 15, Jésus donne en effet à ses disciples des éléments qui leur serviront plus tard pour les disciples, mais c'est dans le passé pour nous, à savoir que Jésus est bien entré dans son règne. Alors il est d'abord question d'une terrible tribulation qui va arriver à Jérusalem, et ensuite il dit qu'il y aura des gens qui vont prétendre être le Messie, mais dont la messianité, c'est-à-dire le caractère messianique, le fait qu'il soit réellement le Messie ou pas, ne sera pas clairement attesté, au contraire de Jésus-Christ, dont le caractère de Messie, quant à lui, sera manifeste. Pourquoi ? Parce que Jésus dit que ce caractère de Messie chez Jésus s'imposera de lui-même, en quelque sorte depuis l'Orient jusqu'en Occident, il dit, au verset 27. « Comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Le Fils de l'homme, c'est un terme qui désigne le Messie. Il dit, en gros, quand le Messie entrera dans son règne, ce sera une évidence. Il n'y aura pas besoin d'essayer de convaincre par toutes sortes de subtilités, comme si c'était un secret, comme si c'était confidentiel. Autrement dit, la réalité du règne de Jésus, le Messie, sera attestée assez clairement par des indices objectifs sur lesquels les disciples, et en réalité tous les chrétiens, nous compris aujourd'hui, pourront s'appuyer pour être encouragés. Et en effet, lorsqu'on regarde dans l'histoire ce qui s'est passé quelques années après la résurrection de Jésus et son ascension au ciel, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que conformément aux prédictions de Jésus, une terrible guerre civile a éclaté à Jérusalem, ce qui a conduit à la profanation du temple, à de terribles souffrances parmi le peuple. J'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais les historiens nous rapportent tout cela. Et finalement, tout ça a conduit à la destruction de Jérusalem par les troupes romaines. Une grande tribulation, donc. Une grande tribulation, sans doute, peut-on dire la pire de l'histoire, en tout cas du point de vue de sa signification théologique, puisque à l'occasion de cette tribulation, la ville de Jérusalem a été humiliée et foulée aux pieds par une nation impure, une nation païenne, les Romains, ce qui marquait le jugement de Dieu contre les Israélites incrédules qui, pour un grand nombre d'entre eux, ont rejeté leur propre Messie. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période ? Plein de conducteurs se sont levés, souvent des chefs militaires, qui prétendaient être le Messie, le vrai Messie. Et c'est sûr que ces gens-là, ils ont réussi à entraîner quelques centaines de personnes à leur suite, successivement, mais leur succès était toujours limité, toujours plutôt confidentiel, c'était plutôt sectaire, plutôt réservé à certains. À l'inverse de Jésus, le vrai Messie, dont le rayonnement et la réputation se sont clairement imposés au fil des années dans l'histoire et au fil des siècles, d'abord à Jérusalem, ensuite dans toute la Judée, dans la Samarie, en Asie mineure et jusqu'aux extrémités de la terre, même en France, même au 302 avenue Jean Jaurès de Lyon 7e. Et donc Jésus veut qu'on regarde en arrière dans l'histoire et que malgré tout ce qu'on observe autour de nous qui pourrait nous faire croire le contraire, il veut qu'on se dise mais oui, je regarde l'histoire, j'étudie ce qui s'est passé. Et en effet, Jésus règne. Jésus est bien le Messie. Il a accompli sa mission. Il a établi son règne. Tout s'est passé et se passe comme il l'a prédit. C'est pour ça qu'au verset 25, Jésus fait cette précision au milieu de son discours. « Je vous l'ai prédit. » C'est comme s'il ouvrait une parenthèse. « Souvenez-vous que je vous l'aurais prédit. Pensez-y lorsque ces événements arriveront. » Et nous, chrétiens du 21e siècle, pensons-y lorsque nous regardons en arrière dans l'histoire et que nous constatons les événements qui sont bel et bien produits. Après que Jésus soit ressuscité, qu'il soit monté au ciel, et que tout s'est déroulé exactement comme il l'avait prédit. Jésus nous l'a dit. Jésus nous l'a prédit. Tout s'est passé et se passe comme il avait dit que ça se passerait. Il n'y a donc aucun doute quand on considère cette grande tribulation qui a eu lieu à Jérusalem dans les années 68 à 70, quand on considère la propagation spectaculaire du christianisme dans le monde entier depuis pratiquement 2000 ans, il n'y a aucun doute que le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Messie Jésus-Christ, est entré dans son règne. Comme le dit le dicton, où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles, ou pour le dire en français, il n'y a pas de fumée sans feu. Autrement dit, si tu vois des aigles, tu en déduis qu'il y a un cadavre. Si tu vois de la fumée, tu en déduis qu'il y a un feu. Et de même, si tu vois que tout se passe conformément aux prédictions de Jésus, tu peux en déduire que Jésus est le Messie, qui a effectivement établi son règne. En attendant la fin, donc, nous avons des raisons de savoir pour sûr que Jésus règne. Il règne aujourd'hui. Il est entré dans son règne. Nous vivons la conclusion de l'histoire. Tout se passe conformément à ses prédictions. Et donc, nous devons faire attention, nous aussi, à ne pas nous laisser entraîner par des faux Christs et des faux prophètes, aujourd'hui encore, qui voudraient nous faire croire que eux ont la solution et le remède à nos souffrances et à notre péché et au dysfonctionnement de notre monde et de notre société. Des gens comme des conducteurs religieux, qui semblent même parfois, et je suis sûr que vous pouvez penser à certains exemples, même aujourd'hui, des conducteurs religieux qui revendiquent la capacité d'accomplir des miracles. Parfois, à vue humaine, on a tout à fait l'impression qu'ils ont bien accompli des miracles. Mais ces conducteurs religieux trahissent le message de l'Évangile. Ou encore des conducteurs politiques, qu'on serait tenté, n'est-ce pas, de voir comme des sauveurs, hein, le Messie. On attendait celui qui, si seulement il était élu, réglerait enfin nos problèmes. On a un petit peu de ça à chaque échéance électorale, n'est-ce pas? Mais stop! Jésus seul est le vrai remède au dysfonctionnement du monde. Lui, il a accompli sa mission pour nous racheter. C'est fait! Il est entré dans son règne. Et la conclusion de l'histoire du monde a commencé. Et en attendant la fin, nous sommes chargés de proclamer cette bonne nouvelle dans le monde entier. Le vrai Messie, le vrai libérateur, il est venu et il est en train de régler nos problèmes. Il a déjà tout accompli pour régler nos problèmes. Et nous pouvons proclamer cette bonne nouvelle dans le monde entier avec d'autant plus de courage que Jésus nous rappelle, à partir du verset 29 et jusqu'au verset 35, il nous rappelle le contexte de notre vie chrétienne présente. Il veut nous faire comprendre ici que l'histoire du monde tend vers un but qui a déjà été scellé. Jésus utilise ici, à partir des versets 29 et 30, en fait, il utilise un langage vraiment particulier. C'est un langage que les Juifs de l'époque devaient comprendre en fait sans difficulté s'ils étaient assez familiers avec les Écritures saintes. Jésus décrit ici une sorte de cataclysme qui va suivre cette grande tribulation dont il a parlé et qui va coïncider avec, dit-il, le signe du Fils de l'homme, avec les lamentations des tribus d'Israël et avec la venue du Fils de l'homme sur les nuées du ciel. Bon, c'est bizarre. Hein, la plupart d'entre nous, on lit ça, on se dit, voilà pourquoi je ne lis pas la Bible plus souvent, hein, je ne comprends rien. Mais pour les Juifs, en fait, un tel langage signifiait tout simplement une grande catastrophe pour Israël qui sera liée à l'entrée du Messie dans son règne. C'est du langage prophétique, en fait. Langage assez courant quand on lit les prophètes de l'Ancien Testament. Du langage imagé, si vous voulez, figuré pour désigner tout simplement une grande catastrophe pour Israël et qui sera liée à l'entrée du Messie dans son règne. Cette catastrophe, c'est la destruction du Temple de Jérusalem en l'an 70, qui sera effectivement une cause de grande lamentation parmi les Israélites, et d'ailleurs qui continue d'être une cause de lamentation parmi les Israélites, parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Quant au Fils de l'homme qui vient sur les nuées, cette expression est tirée de l'Ancien Testament, ça désigne en fait l'établissement du règne du Messie. Et ce que Jésus est en train de faire en associant ces deux réalités dans ce discours, c'est qu'il affirme que la destruction du Temple de Jérusalem sera le signe spectaculaire de son avènement et de la fin du monde. Je répète, la destruction du Temple de Jérusalem sera le signe spectaculaire, immanquable en quelque sorte, de son avènement en tant que Messie et de la fin du monde. En ce sens, donc, Jésus répond bien à la question de ses disciples, n'est-ce pas ? Posée au verset 3, dis-nous, quand est-ce que le Temple sera détruit et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Mais Jésus décrit aussi ici le déploiement de son règne, qui va se produire ensuite pendant cette fameuse fin du monde, c'est-à-dire pendant cette période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui vivons dans les derniers temps. Il va décrire le déploiement de son règne. Jésus dit que son avènement sera visible au verset 30. Non seulement son avènement sera visible en raison de la destruction spectaculaire du temple, mais il sera visible aussi parce que sa puissance et sa gloire en tant que Messie ressuscité, monté au ciel, glorifié, exalté, sa puissance et sa gloire seront aussi manifestées dans l'appel efficace des élus, c'est-à-dire des croyants de toute l'histoire qui vont répondre effectivement à l'invitation de l'Évangile qui leur sera faite, qui sera prêchée par les messagers de Dieu, que sont d'abord les apôtres, que sont les évangélistes, les pasteurs et d'ailleurs tous les croyants qui témoignent fidèlement de Jésus-Christ dans toute l'histoire. Quand vous prêchez l'Évangile, quand vous partagez l'Évangile, le message de l'Évangile avec vos voisins, avec les membres de votre famille, avec vos collègues, vous êtes en train de participer à cette œuvre magistrale dont il est question au verset 31 où il est dit que le Fils de l'homme, le Messie, enverra ses anges, c'est-à-dire ses messagers, avec la trompette retentissante. C'est vous ça. Vous êtes en train de prêcher l'Évangile, vous êtes en train de proclamer cette invitation, la bonne nouvelle du royaume dans le monde entier. Vous êtes en train de participer à ça pour rassembler les élus de Dieu des quatre vents, c'est-à-dire de tous les coins du monde, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc c'est dans ça aussi que la gloire du Messie est manifeste dans l'histoire. En fin de compte, bien sûr, l'avènement de Jésus sera aussi manifesté au monde entier le jour de son retour glorieux en personne. Ce jour-là, les anges du ciel parachèveront le rassemblement des élus, cette fois pour le jour du grand jugement. Mais ce processus, en quelque sorte, en fait, a déjà commencé. Nous sommes déjà en plein dedans. Nous sommes déjà dans la conclusion de l'histoire. Déjà, l'avènement de Jésus est manifeste dans la prédication de la parole de Dieu et dans la réponse de foi des croyants à l'appel de Dieu. Et déjà, Jésus est en train de juger le monde sous l'effet de sa parole, qui est une épée efficace à double tranchant. Mais ce qu'on appelle la consommation ou le parachèvement, l'accomplissement final, l'accomplissement définitif de cette réalité ne viendra que le jour du retour glorieux de Jésus à la fin de la conclusion de l'histoire. Jésus veut que nous soyons persuadés de vivre aujourd'hui Et en quelque sorte, depuis l'an 70, mais en fait, même depuis sa résurrection et son ascension au ciel, Jésus veut que nous soyons persuadés de vivre aujourd'hui dans une réalité déjà inaugurée, mais pas encore consommée, c'est-à-dire pas encore pleinement déployée. Il veut que cette conviction conditionne la façon dont nous vivons et dont nous le servons pendant cette période qui continuera d'être difficile jusqu'à la fin. C'est un peu comme quand on achète une nouvelle maison. Il arrive le jour où vous signez l'acte de vente, n'est-ce pas, chez le notaire. Ce jour-là, vous pouvez dire que vous avez acheté une nouvelle maison. Votre adresse a changé ce jour-là. Vous êtes propriétaire d'un logement dans une nouvelle ville. Vous êtes devenu un citoyen de cette ville. C'est une réalité qui a été inaugurée le jour de la signature. Mais ça ne veut pas dire que vous habitez instantanément la maison que vous venez d'acheter. C'est d'ailleurs pratiquement impossible. Vous devez encore déménager vos meubles, transférer votre abonnement Internet, vous devez déclarer votre changement d'adresse à EDF, au service des eaux, etc. Et tout ça, ça peut prendre du temps. Mais un jour, la réalité de ce qui a été signé sera pleinement manifestée. Et entre-temps, cette conviction, n'est-ce pas, va conditionner votre vie. Elle va conditionner pas mal de choses que vous faites jusqu'au jour où vous pourrez pleinement prendre possession de cette maison qui est à vous. Or, ces deux étapes, l'inauguration et la consommation, pour ainsi dire, ou l'inauguration et le parachèvement, sont tellement liées entre elles, ces deux étapes, que quand vous parlez de l'une, vous impliquez nécessairement l'autre. Et c'est un peu ce qui se passe dans le texte ici. En parlant de l'avènement de Jésus, c'est-à-dire l'entrée de Jésus le Messie dans son règne, eh bien le texte implique non seulement l'inauguration de ce règne par la résurrection et l'ascension de Jésus, et non seulement le signe historique de cet avènement par la destruction de Jérusalem et du Temple, et non seulement le déploiement actuel de ce règne par la prédication de l'Évangile, mais il implique aussi la consommation de ce règne par le retour de Jésus-Christ à la fin de la conclusion, lorsque il jugera le monde selon la justice, lorsqu'il purgera d'ailleurs le monde de tout mal et lorsqu'il établira sur le monde son règne éternel et bienveillant pour notre plus grand bonheur et pour sa propre gloire. Et parce que cette réalité est tellement certaine, Jésus dit au verset 33 qu'elle est proche. Le royaume est proche. Le royaume est à la porte. Il est tout près. Tellement c'est certain. C'est comme après avoir signé l'acte de vente. Vous allez entrer dans cette maison. C'est tout proche. C'est prêt. Ça vient bientôt. Et nous le savons pour sûr depuis l'époque où ce texte a été écrit et où la génération même de cette époque, les chrétiens vivants, lorsque Jésus a prononcé ce discours, ont vu de leurs propres yeux tout ce qui atteste cette réalité. Ils ont vu de leurs propres yeux le siège de Jérusalem. Ils ont vu la destruction du temple. Ils ont vu l'évangélisation des non-juifs, des nations, qui a commencé, qui a d'ailleurs explosé pendant le premier siècle. L'histoire du monde tend vers un but qui a déjà été scellé. Comme le dit Jésus au verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et maintenant, pour conclure, je sais que cette prédication a pu vous paraître technique et compliquée. Et c'est vrai, je le disais, que ce texte en particulier est un texte difficile. En fait, c'est un de ces textes qui est tellement compliqué qu'il n'existe pas vraiment de consensus sur l'interprétation précise qu'on doit en faire. Il faut l'avouer. Il y a des gens bien plus intelligents que moi qui, en prêchant ce texte, vous diraient peut-être des choses assez différentes que moi en ce qui concerne en tout cas l'accomplissement passé, présent ou futur de certaines des prédictions de Jésus contenues dans ce texte. Mais le moins qu'on puisse dire avec certitude, c'est ce que je disais en introduction, c'est que Jésus ici, me semble-t-il, cherche à répondre à une question précise des disciples qui voudraient que Jésus leur dise quelque chose qui les encourage à patienter en attendant l'établissement du règne bienveillant de Dieu sur la terre. Et ce qu'il y a, c'est que vous, aujourd'hui, vous êtes peut-être dans cette situation, vous aussi. Vous vous dites chrétien, ou en tout cas, vous avez entendu parler de l'espérance des chrétiens, mais en même temps, vous observez le monde. Et peut-être que vous êtes profondément déprimé, ou abattu, découragé. Et peut-être même que vous vous posez des questions quant à la fiabilité des promesses de Dieu. La fiabilité des promesses de l'Écriture sainte, qui concernent la personne de Jésus-Christ et son œuvre. On vous dit que Jésus est venu accomplir tout ce qu'il fallait pour délivrer le monde. Mais on ne dirait pas que ça a bien réussi. Hein. Et pourtant, ce texte cherche précisément à nous convaincre que le royaume des cieux est tout proche, à la porte. La fin de la conclusion arrive. C'est une certitude. Tiens bon, car Jésus règne et il est en train d'accomplir ce qu'il a promis, comme le dit aussi l'apôtre Pierre, qui était là lorsque Jésus a prononcé ce discours et qui a écrit lui aussi, quelques années plus tard, il a écrit ceci: « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. » Et un peu plus loin, il ajoute: « C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui, sans tache et sans défaut, dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Amen. On va prier. Merci notre Dieu, notre Père, encore une fois, merci pour ta parole. Nous confessons les limites de notre intelligence. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à retenir tout ce qui vient de toi, pour que tout ce qui vient de toi porte du fruit dans notre vie, pour ta gloire et pour notre bien. Aide-nous, s'il te plaît, à être convaincus que nous vivons aujourd'hui la conclusion de l'histoire parce que le règne de Jésus a été établi. Il déploie son autorité aujourd'hui et ce règne par la proclamation de l'Évangile. Et le jour vient où lui-même reviendra en personne pour la conclusion finale, pour le parachèvement de ton plan, pour le jugement, pour la délivrance finale de ce monde des liens du mal et du péché et de la mort. Seigneur, donne-nous d'être patients en vue de ce jour, donne-nous d'être fidèles. Fortifie notre foi, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen.